Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Mel Emmanuel.
20h en Corse et 18h en Côte d'Ivoire, comme partout en temps universel, soyez les bienvenus à ce journal. Dans le cadre de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, la concertation interpartie pour des élections démocratiques, CIED, plaide en faveur des personnes vulnérables pour leur inclusion dans le processus électoral. Fermeture officielle des pêches en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques assure les consommateurs de la disponibilité de poissons durant la période de fermeture. Et puis hors de nos frontières, les manifestations anti-gouvernementales au Kenya ont connu un nouvel épisode ce mardi avec des échauffourées dans la capitale Nairobi. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radio de la Paix. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, la concertation interpartie pour des élections démocratiques CIED veut engager un plaidoyer en faveur des personnes vulnérables. Les justifications de cet engagement avec Blé Pierre Norlander, président de la CIED.
Ce plaidoyer, c'est que j'ai fait une tournée dans plusieurs régions pour m'acquérir un peu de comment est-ce que nous devions faire pour amener nos populations à s'intéresser aux élections et faire en sorte que ces élections soient apaisées. J'ai trouvé des femmes qui ont parlé de leur situation. Donc j'ai écouté les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Et les personnes vivant avec un handicap m'ont dit, quand il y a des élections, les gens nous frustrent. Des fois, les gens mettent nos urnes dans des coins élevés et donc nous avons des problèmes. Alors, nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes mises à l'écart et faire le plaidoyer.
D'accord. Du côté des handicapés, on peut comprendre quelque chose, mais les femmes et les jeunes, quel est leur problème?
Il y a beaucoup de femmes, d'abord au sein des partis, qui disent que nous, on veut être candidat, mais on a peur de ce que les hommes vont nous dire. Bon, j'ai dit au moins, si vous n'êtes pas candidat, soyez électrice ou membre du bureau de vote. Elles ont dit, oui, on veut faire tout ça, mais on n'est pas encouragé parce que les hommes nous fatiguent et les partis politiques ne nous font pas confiance. Donc, dans ce cas, nous devons mener des actions pour les sensibiliser, renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent représenter un candidat dans un bureau de vote ou alors même être elles-mêmes électrices ou bien candidates. Donc, pour ce faire, nous devons sensibiliser non seulement les autorités, mais aussi les partis politiques eux-mêmes.
Vous écoutiez le président de la concertation interpartie pour des élections démocratiques CIED, Blé Pierre Norlander, en ligne avec Junior Cardin. Toujours en prélude à la présidentielle de 2025, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est attendu le 14 juillet prochain à Benoît dans le cadre d'une visite aux populations des localités du sud-est de la Côte d'Ivoire. Pour s'assurer du bon déroulement de cette visite, le secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Thierry Jean Gervais, a tenu une séance de travail avec le comité d'organisation le samedi 29 juin dernier. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, fraîchement investi candidat du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025, a choisi Benoît pour marquer le début de sa pré-campagne électorale. Lutte contre la pauvreté à présent, un atelier de restitution des résultats des études d'évaluation d'impact des transferts monétaires et des effets des mesures d'inclusion économique du programme des filets sociaux productifs s'est tenu hier lundi à Abidjan en présence de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Sur l'impact de ce programme spécial du gouvernement sur les populations bénéficiaires, écoutons les explications de son coordonnateur, Kone Kipeya, joint par Jean-Claude Mabéa.
Nous sommes sur un volume de 130 milliards de ressources qui ont été redistribuées sur la période 2017-2023 à 402 000 ménages sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les 31 régions sont concernées. 108 communes, chefs-lieux de département sont également couvertes. Et nous avons donc un volume de 3 671 villages qui sont également touchés. Toutes les sous-préfectures ont au moins un village. Et comme vous le savez, le programme de transfert monétaire, c'est une allocation de 36 000 francs CFA tous les 3 mois sur une période de 3 ans. Et donc ce sont autant de ménages, autant de régions, autant de communes et de villages qui ont donc bénéficié de ce programme social du gouvernement.
Et quel est aujourd'hui l'impact de ce programme sur les populations, les ménages particulièrement?
Oui, nous avons justement au cours de cette session qui a été faite, présenté les résultats d'évaluation d'impact des transferts monétaires Ces évaluations ont été réalisées par l'ENSEA. Ils en ont fait la restitution sur les transferts monétaires. Les études relèvent qu'il y a une grande majorité des populations qui affirment avoir changé de statut par rapport à la pauvreté. Et donc, c'est plus de 78 points de pourcentage qu'on a pu enregistrer en termes donc de mobilité des ménages de leur statut initial d'extrêmement pauvre vers une situation qui les a franchis au-delà du seuil de pauvreté.
À l'instant, les propos du coordonnateur du programme des filets sociaux, Kone Kipeya. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année, les sociétés coopératives agricoles de café-cacao de la sous-préfecture de Yapleu, département de Mans, ont proposé des meilleures pratiques en matière de lutte contre l'exploitation et la traite des enfants dans cette partie du pays. Sur place pour Radio de la Paix, Stéphane Adams.
Les enfants de la sous-préfecture de Yapleu à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants en lien avec l'objectif Donne de la voix.
La place d'un enfant c'est où ?
À l'école !
La place d'un enfant c'est où ?
À l'école !
L'école a un impact positif sur les conditions de vie des populations. Selon la présidente de la société coopérative agricole Café Cacao Singa de Mans, Bamba Bernadette, d'où son appel.
Chère maman, vous qui êtes ici présentement, envoyez vos enfants à l'école. Vos enfants doivent aller à l'école. Il n'y a rien de tel. Quand il ne met pas ton enfant à l'école, peu importe l'effort que l'enfant va faire, il y a toujours un petit handicap.
Une étape chère à la société coopérative Sokamea à travers la coopérative Sœur Yeyasso qui entend jouer sa partition liée à la documentation des enfants sans papier dans cette zone productrice de café cacao. Tano Patrick Nestor, directeur Sokamea.
Cher producteur, si vous avez des enfants qui n'ont pas encore date d'extrait de naissance, vous vous rapprochez de la coopérative Sokamea, vous faites la photocopie de votre pièce que vous ajoutez au nom que vous avez donné. La coopérative Sokamea va s'approcher de la coopérative Yeyasso, qui est notre coopérative sœur, de l'organisation ICI. Et l'organisation ICI, à son tour, va établir les extraits d'âge de naissance de vos enfants gratuitement. Déjà plus.
La remise des kits scolaires et des diplômes d'excellence aux meilleurs élèves a également meublé cette journée. Stéphane Adams, de retour de Yapleu, Radio de la Paix.
Ressources halieutiques en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a procédé hier lundi à la fermeture des pêches au titre de l'année 2024 à Adiaké. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Compte rendu Jean-Claude Mabéa.
En procédant à la fermeture officielle des pêches en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques a rappelé l'objectif de ce second repos biologique. Sidi Timoko Touré.
La fermeture des pêches vise à favoriser la reproduction des poissons et reconstituer les différentes populations de poissons, à améliorer le niveau de capture et les revenus des acteurs, notamment des pêcheurs, mais aussi à assurer une exploitation durable de nos plans d'eau au profit des générations actuelles et futures.
Et sur la disponibilité en poissons sur le marché national, il a tenu à rassurer consommateurs et pêcheurs en ces termes.
Des dispositions ont été prises avec les importateurs de poissons, mais aussi avec les aquaculteurs, c'est-à-dire les éleveurs de poissons. Le total de disponibilité à ce jour est estimé à 245 000 tonnes de poissons, dont 200 000 de disponibilité physique et 45 000 tonnes de stock en cours. C'est-à-dire que nous n'aurons pas de rupture de poissons sur le marché durant toute la période de fermeture de pêche.
Le gouvernement bénéficie de l'appui de la FAO. Atae Maïga, son représentant résident.
La FAO reste engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 14 qui vise à conserver et à exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.
A signaler que le gouvernement a prévu la mise en place d'un fonds revolving pour minimiser l'impact de ce repos biologique sur les acteurs du secteur.
Il faut également noter que la pêche artisanale sera fermée du 1er au 31 juillet, la pêche semi-industrielle et industrielle du 1er juillet au 31 août et les plans d'eau lagunaires et continentaux comprenant les lagunes Abi, Grand Laou et les lacs de Kossou et de Buyo seront également fermés du 1er septembre au 31 octobre. Poursuivons notre tour de l'actualité dans le nord du pays. Le mardi 25 juin dernier, l'unité de coordination du projet Abidjan Legacy Program, en collaboration avec le projet d'investissement forestier phase 2 et sur financement de la Banque mondiale, a organisé un atelier de restitution du rapport national sur le climat et le développement dans le district autonome des savanes. Retrouvons sur place notre correspondant régional, Tommy Corona.
D'entrée, Abou Bamba, coordonnateur du Abidjan Legacy Programme ou l'initiative d'Abidjan, dresse un constat alarmant.
Les récentes alertes de l'Organisation météorologique mondiale et de la Sodexam nous ont mis en garde sur l'ampleur des inondations dévastatrices sur le littoral, donc dans la zone sud du pays, tandis que le nord du pays souffre de sécheresses prolongées. Ces événements mettent en péril nos performances économiques et menacent de façon imminente notre développement.
Avant de dépeindre ce tableau peu reluisant en termes d'impact négatif du changement climatique sur les agriculteurs du nord de la Côte d'Ivoire.
La perturbation des périodes de pluie avec des retards de plus en plus importants met à mal les cycles de production et menace la sécurité alimentaire et économique de ces communautés. Si les agriculteurs ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille, cela risque de déboucher sur des situations complètement dommageables.
D'où la formulation de 15 recommandations en vue d'inverser la tendance. Lecture de quelques-unes d'entre elles par Kone Yerechan.
Renforcer l'adaptation dans les secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture, l'utilisation des sols, le développement urbain et l'interconnexion.
Il convient de noter que le Abidjan Legacy Programme ou l'initiative d'Abidjan vise entre autres à promouvoir un développement durable tout en renforçant la productivité et le dynamisme agricole de la Côte d'Ivoire. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
D'une région à une autre, posons nos valises dans le Haut-Sassandra. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a organisé avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région une rencontre d'échange et de coopération à Daloa. Elle portait sur les opportunités et les potentialités du Haut-Sassandra et l'établissement des relations pour d'éventuels investissements dans des secteurs d'activité dans la région. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une caravane initiée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas dans plusieurs régions du pays. Noël Kwame.
L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Jeroen Kelder-Huys, au cours de cette rencontre, a mis en avant la solidité des relations économiques entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire.
Les Pays-Bas sont le troisième plus grand exportateur de produits agricoles au monde après les États-Unis et le Brésil. Grâce à une approche inclusive, en 2023, les Pays-Bas sont redevenus le premier client de la Côte d'Ivoire, premier importateur mondial de cacao. Cette caravane marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre le Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous pouvons créer un avenir prospère pour nos deux pays.
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Sassandra, Touré Dadjé, a présenté quant à lui les opportunités économiques de la région à la délégation de l'ambassadeur.
Jusqu'en 2020, la région était deuxième producteur national de maïs et de bananes plantains, troisième producteur d'ignames, plus de 6% de la production nationale de manioc, culture pérenne. Nous avons près de 382 153 tonnes. Nous avons la pêche, les bovins, les ovins, le volaille. La région produit plus de 50 tonnes d'or par an, 34 villages avec des potentiels aurifères. Nous avons une unité de décorticage de noix de cajou.
Plusieurs opérateurs économiques présents à cette rencontre ont échangé sur des opportunités d'affaires avec l'ambassadeur et sa délégation pour d'éventuelles coopérations et développement de leurs différents projets. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Et une note de santé dans ce journal. Près de 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois seront vaccinés contre le paludisme à partir de la mi-juillet, a annoncé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. C'était lors de la réception à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan d'un important lot de vaccins pour lutter contre le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. La livraison de 131 100 doses de vaccins antipaludiques fait partie d'un total de 656 600 doses déjà reçues. Le point avec Paul Bénédicte Bolo.
La représentante pays de l'OMS en Côte d'Ivoire, Dr Fatim Tall, a rassuré que ces vaccins sont sûrs et efficaces.
Les vaccins sont sûrs et ils ont fait la preuve de leur efficacité, de leur innocuité pour pouvoir réduire les cas de paludisme grave chez les enfants, mais aussi réduire la mortalité chez les enfants. Lors de la phase pilote qui a eu lieu au Ghana, au Malawi et au Kenya, 2 millions d'enfants ont été vaccinés avec une réduction de 13% de la mortalité.
Le représentant Gavi pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana, Alain Ao, qui a financé l'introduction du vaccin, sur le choix de la Côte d'Ivoire.
Parce que c'est l'un des pays où il y a beaucoup d'endémicité, mais aussi le fait que le système de vaccination soit assez efficace, probablement l'un des pays qui aura plus de résultats en termes d'efficacité de ce vaccin. Et actuellement, c'est la période des pluies, donc c'est la période de grande endémicité de paludisme, donc c'est le meilleur moment pour lancer le vaccin. Pour le lancement, là, on a mis environ 5 millions de dollars. C'est l'ensemble des coûts, sans compter les coûts des vaccins, qui s'élève à un peu plus que ça.
Pour le ministre Pierre Demba, l'objectif est vraiment de renforcer notre plan de lutte contre la mortalité chez les enfants.
Nous allons aller relever le défi de l'élimination donc du paludisme comme première cause de mortalité dans notre pays. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du chef de l'État, remercier les partenaires qui nous accompagnent pour renforcer notre système sanitaire. L'impact économique de l'acte que nous posons aujourd'hui est tellement important que chacun doit apporter donc sa pierre à l'édification de cette stratégie nationale pour l'élimination donc du paludisme dans notre pays.
Le calendrier vaccinal prévoit 4 doses de vaccins antipaludiques administrées à 6 mois, 8 mois, 9 mois et 15 mois.
Actualité sur le continent, jet de pierre, gaz lacrymogène, pillage. Dans la capitale kényane, Nairobi, l'appel à manifester contre le gouvernement du président Ruto dans le cadre d'un mouvement de contestation lancé mi-juin a donné lieu ce mardi à des échauffourées et dégradations. Des rassemblements de plusieurs centaines de personnes se sont également tenus dans d'autres villes. À Mombasa, deuxième ville du pays, des voitures ont été incendiées et au moins un commerce vandalisé selon des images de la télévision kényane. Le pays est secoué depuis deux semaines par une vague de contestation déclenchée par le projet de budget 2024-2025 prévoyant de nouvelles taxes qui a cristallisé et fait culminer un plus large mécontentement contre William Ruto, élu en 2022. Et dans l'espace ouest-africain, la CDAO envisage une force antiterroriste régionale qui aura pour objectif de se déployer rapidement pour aider à reconquérir les bases terroristes dans les pays déjà touchés par ce phénomène. Cette force aura également pour tâche d'empêcher la propagation du terrorisme du Sahel vers les pays côtiers. Comment pourrait-elle réussir sa mission ? Docteur Aswaga Laurent, maître de conférence en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, fait des suggestions.
La CDAO a un rôle important. Et je dirais même la CDAO a un rôle multiforme. Parce qu'il serait puéril de penser que la réponse au terrorisme ne serait exclusivement que militaire. C'est vrai, les différents jeunes au pouvoir aujourd'hui, pris dans le feu de la lutte antiterroriste, vu l'alliance sécuritaire stratégique qu'ils ont avec la Russie, n'accepteront jamais de participer aujourd'hui à une force de la CDAO qui vient pour eux tardivement ou bien qui est une forme de reconquête du cœur des Sahéliens. Par contre, ce que moi je suggérerais à la CDAO, comme je l'ai dit, la lutte n'est pas que sécuritaire parce que militairement, il serait difficile de venir à bout du terrorisme. Il faut allier maniement d'armes sur le champ des opérations et investissement, ce que la Côte d'Ivoire a bien réussi au lendemain des attaques au nord du pays à Kafolo. Vous voyez, le gouvernement ivoirien a déployé tout un filet social avec des investissements importants qui a détourné les jeunes du septentrion contre toute aventure djihadiste. Donc, la CDAO aussi peut aujourd'hui, dans ses approches, essayer de voir comment avoir un fonds financier important qu'on pourrait redéployer à travers des filets sociaux vers les jeunesses de ces différents pays.
Docteur Aswaga Laurent, maître de conférence en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, interrogé par Soro Adams. Et nous refermons notre page internationale avec du football Euro 2024. C'est aujourd'hui que se referment les huitièmes de finale de l'Euro. Deux matchs en vue pour cette journée avec à 19h temps universel Autriche-Turquie. Juste avant, à 16h, les Pays-Bas étaient face à la Roumanie et se sont imposés sur un score de 3-0. Les matchs reprendront dès ce vendredi pour les quarts de finale avec deux affiches à 16h, Espagne-Allemagne, suivi de France-Portugal à 19h. En attendant, passons au rappel des titres de ce journal. Dans le cadre de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, la concertation interpartie pour les élections démocratiques SIED plaide en faveur des personnes vulnérables pour leur inclusion dans le processus électoral. Fermeture officielle des pêches en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques assure les consommateurs de la disponibilité de poissons durant la période de fermeture. Et puis hors de nos frontières, les manifestations anti-gouvernementales au Kenya ont connu un nouvel épisode ce mardi avec des échauffourées dans la capitale, Nairobi. Merci d'être resté jusqu'au terme de ce journal. Tout de suite, mon droit au quotidien avec Aoussi Potin.